Donc je suis Marie-Hélène Centron. J'ai été conservateur au musée d'Aubray, responsable des collections extra-européennes et des collections archéologiques du musée. Alors le musée d'Aubray est un musée créé par un grand collectionneur nantais qui était Thomas d'Aubray, qui était un armateur, donc il avait des bateaux qui allaient un peu partout. Et finalement, il en a fait don au département de la Loire-Atlantique. L'essentiel de la motivation pour tous les grands collectionneurs qu'on a connus, en tout cas qui avaient des collections relativement importantes, c'était l'avenir de leur collection une fois mort. Et en fait, ils ont tous dans l'idée, en règle générale, que leur collection étant tellement importante qu'on va faire un musée rien que pour eux.
Donc dans les années 2000, comment se passe l'approche ?
Alors l'approche, elle n'est pas banale. Parce que je travaille au musée et ma secrétaire me passe un monsieur qui se présente comme étant un monsieur Daniel Rivet, qui se dit homme de loi et qui se dit gestionnaire des affaires d'un certain monsieur Sals. Et il va vous mettre en concurrence avec une série de musées et suivant la réponse que vous allez me faire, il choisira le musée à qui il donnera sa collection. Moi, c'est la première fois que j'ai été confrontée à ce genre de demande, en plus par un monsieur que je ne connaissais pas et qui ne me mettait pas en contact avec monsieur Sals. Je me suis dit, j'ai hésité, je dois avouer, je me suis dit, je vais faire quand même une réponse, parce qu'il voulait une réponse écrite et que j'explique pourquoi je trouverais un intérêt à recevoir ses collections. Donc j'ai dit, je vais quand même faire une réponse. Parce que c'est après tout c'est mon métier de dire que je suis quand même intéressée par des collections et donc je fais ma réponse, puis bon, je crois qu'il s'est passé au moins 5 ou 6 mois jusqu'au jour où j'ai de nouveau un appel téléphonique de ce monsieur Daniel Rivet qui me dit monsieur Sall vous a retenu. Je lui ai dit, mais je voudrais quand même rencontrer le collectionneur parce que je voudrais savoir de quoi il s'agit d'abord et je voudrais rencontrer quand même monsieur Sall. Il me dit, mais c'est prévu. Donc, je vous propose de venir à Paris au café de la gare Saint-Lazare et ensuite, je vous amènerai en voiture voir les collections. Donc, je trouve que c'est quand même bizarre. Et je ne suis pas tranquille, je dois avouer. Et donc j'ai dit à mon mari, qui était directeur du musée d'Aubray, je lui ai dit, écoute, j'aimerais mieux que tu m'accompagnes, parce que partir seul à Paris, avec des gens que je ne connais pas du tout, partir en voiture, j'ai dit, je ne suis pas tranquille, donc nous y allons tous les deux. On arrive donc à ce café où il y avait presque... Alors il avait donné rendez-vous à 14h, je me souviens, où il n'y avait presque personne, et je vois tout de suite un monsieur âgé, un monsieur plus jeune, je me dis c'est eux, effectivement. Donc monsieur Sals est là, avec monsieur Rivet. Alors un monsieur Rivet, très affable, très aimable, très gentil, et, oui bien sur sa personne, un monsieur très bien, et un monsieur Sals, le visage totalement fermé, et on a pris un café, et je crois qu'il a dû dire 3 mots.
À partir, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans votre affaire. Alors...
Oui, non, mais c'était surréaliste, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que moi, c'est quand même la seule fois et l'unique fois où j'ai vécu quand même une histoire pareille. C'est vrai qu'on a connu des collectionneurs un peu fous comme ça, mais comme je vous l'ai dit, c'était des collectionneurs habités par leur collection, donc et des passionnés. Tandis que lui, ce n'était pas le cas du tout. C'était quelqu'un totalement froid, qui ne disait pas un mot.
On dit toujours, ce n'est pas ma collection, c'est celle de ma femme.
Alors, il répétait ça, c'était la seule phrase qu'il a dû nous dire, en tout cas quand on est arrivé au café de la gare Saint-Lazare, c'est la seule phrase qu'il nous est dite. Et dans la voiture, il a répété la phrase. Et ensuite, on arrive donc dans un bâtiment très quelconque à Paris, un immeuble très quelconque, et nous voilà qui commençons à monter l'étage. Je me suis dit, il n'arrivera jamais en haut, parce que monsieur Rivet nous dit, je ne sais plus si c'était au 3e ou 4e, je crois bien que c'était le 4e. Alors, sans ascenseur, hein, l'immeuble. Et il commence à monter, je me dis, il n'arrivera jamais en haut. Et puis bon, il est arrivé quand même en haut avec nous. Il ouvre un appartement très sombre. Très... Alors, on n'ouvre pas un volet. Hein. Complètement glacé parce que ce n'est pas chauffé. Et un capharnaüm, mais sans nom, sans nom. Moi, c'était, mais je me suis dit, mais on est où? On est vraiment où dans ce lieu-là?
Des traces d'habitation, c'est-à-dire qu'il y avait un lit, il y avait des éléments de cuisine, des choses comme ça, une armoire, mais on voyait que ça n'était pas habité.
Et moi, j'ai eu la sensation, si vous voulez, quand on est rentré là-dedans, je me suis dit, il a entreposé des collections qui étaient ailleurs, parce que c'était beaucoup de cartons, mais des cartons absolument partout, avec des pièces qui sortaient un peu de ces cartons. Et il nous amène dans ce qu'a été la chambre. Et sur le lit, il y avait quelques collections précolombiennes étalées. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il nous a fait faire le tour de l'appartement, quand même, Monsieur Sals. Et il nous a montré, et on voyait que ça, il y tenait tout le double des documents que sa femme avait dactylographiés. C'était les doubles des minutes du procès de Nuremberg, puisqu'elle était sténodactylo et qu'elle avait tapé à la machine tout le procès. Donc ça, on voyait que c'était quelque chose auquel il tenait.
On lui a dit qu'il ne fallait surtout pas perdre ces documents. On ne savait pas qu'elle était du tout, s'ils existaient ailleurs ou non, mais on lui a dit que ça, il fallait absolument que ça aille aux archives nationales. La première des choses. C'était important.
Et il n'a pas répondu. il ne faisait aucun commentaire, si vous voulez, sur rien. Et par contre, une fois qu'il a eu, je lui ai dit, bah, écoutez, oui, ces collections m'intéressent. Et là, il m'a dit, bah, écoutez, vous venez les chercher le plus vite possible. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, laissez-moi un peu de temps, il faut que je prépare des caisses, il faut que j'évalue quand même ce que ça va représenter. Ah mais c'est pas la peine, les cartons sont faits avec le papier journal. Je dis non, moi je transporte pas des collections dans ces conditions-là, je les mets en caisse avec mon équipe. Et alors je lui ai dit, bah, écoutez, ça va prendre un peu de temps. Il m'a dit, non, je vous donne 15 jours, pas un de plus. Donc j'ai fait des caisses avec mon équipe et on est revenu chercher... C'est là où j'ai vu que tout, enfin, j'ai vu encore plus, je crois, sa méfiance que la première fois, parce que je suis arrivée en camion, donc au pied de son immeuble. Alors j'ai appelé. Il m'a demandé combien il y avait de personnes, le nom des personnes, qu'est-ce qu'ils avaient, ils montaient avec quoi. Alors je lui ai dit des caisses en bois, et il m'a dit bien montez. Et il n'a pas dit, on est arrivé en début d'après-midi de mémoire, mais il n'a pas offert un café ni quoi que ce soit à personne, hein, inutile de vous dire. On sentait qu'il était pressé, il fallait que ça disparaisse et terminé. Donc, si vous voulez, en un rien de temps, on a quitté cet appartement, je ne l'ai jamais revu. Donc moi, je lui ai fait des courriers de remerciement. Et le musée a fait tous les courriers de remerciement, le conseil général également. Jamais il n'a répondu à rien. Jamais.
Je pense que c'était rue des Montibœuf.
Oui, c'était rue des Montibœuf, c'est exact. Puis après, ça nous est revenu parce qu'on a regardé la rue quand même quand on est arrivé. Je me souviens de ça. 3 ans après, ce don, donc 2 ans après, parce qu'il fait le don en mars 2001, si je me souviens bien, et 2 ans après, il va me redonner, et c'est de nouveau M. Rivet qui prend contact, une dizaine de pièces, dont une belle paire de boucles d'oreilles en or. C'était assez intéressant pour ça. C'est une paire de boucles d'oreilles aztèques. C'est vraiment quelque chose de grande qualité. Dans le papier journal, et si vous voulez, il aurait pu jeter du papier journal où il y avait d'autres pièces de ce type sans se rendre compte qu'il y avait des collections dedans. Hein. Et si vous voulez, moi, c'est ce qui m'a le plus fait mal au cœur, en fait, quand j'ai été dans cet appartement, c'est voir ce délaissement sur les collections. Vous voyez, ce non-intérêt... on avait l'impression, mais alors vraiment, qu'il fallait qu'il s'en débarrasse, mais ça ne l'intéressait pas. Alors c'est étonnant, parce que je me souviens que Châteaudun, j'avais pris contact avec eux, donc ils n'avaient pas du tout de collection précolombienne, dans ce que leur avait donné en tout cas M. Sals. parce que les pièces de Châteaudun, elles sont intéressantes. Hein. Il y a de très belles pièces. Il y avait des pièces iraniennes aussi, indiennes et iraniennes, qui étaient vraiment des belles pièces. Je ne crois pas qu'il ait donné, très franchement, je ne pense pas qu'il ait donné à d'autres musées. Et je ne sais pas, et j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il m'ait mis en concurrence avec d'autres musées. J'ai beaucoup de doutes. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que vous n'ayez rien sur Rivet. Moi, c'est un personnage aussi qui m'intrigue.
Alors, Daniel Rivet, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par la conservatrice du musée de Châteaudun, qui m'a donné ses coordonnées, donc son adresse à Puteaux, et son numéro de téléphone. Or, ce 06 était toujours attribué, mais ne répondait jamais. Et puis, on avait fait des recherches avec Philippe, et puis on a trouvé un Daniel Rivet, dont l'âge semblait correspondre, dont la situation semblait correspondre, et qui est mort en 2017, au moment où Philippe Jaénada a commencé son enquête sur l'affaire Léger.
Alors, c'est vrai que je me suis débarrassée de tous les ouvrages de Jacques Sals. J'avais aussi un stock de livres de Marie-Thérèse Prénat que j'avais sauvé du pilon. Et j'ai gardé les deux qui me tiennent à cœur, Approche de la personnalité profonde de Marie-Thérèse Prénat, ça a été mon doudou de graphométrie, et puis le pronostic de passage à l'acte, parce qu'on parle toujours du pronostic du passage à l'acte et du travail sur les récidivistes, vont-ils récidiver, etc. Alors je vous ai sorti mon certificat d'aptitude à la pratique et à l'enseignement du test graphométrique d'orientation et de sélection professionnelle signé par Jacques Sals et Marie-Thérèse Prénat en 86-87, Société française de graphométrie et de graphologie scientifique, 26 rue des Montibœuf, et donc c'était là où Monsieur Jacques Sals donnait quelques cours, parce que c'était vraiment un public extrêmement choisi, de graphométrie.
Catherine Bautiot, nous sommes dans votre cabinet. Est-ce que vous pourriez nous décrire les cadres qui sont devant nous ?
Ce sont des cadres dans lesquels il y a des photos d'écriture agrandies. Moi, j'ai commencé la graphologie en 78. C'était très utilisé, surtout dans le recrutement. En France, à cette époque-là, c'était des chapelles. Hein. C'était des femmes qui avaient des très, très belles situations par ailleurs, ou dont les maris avaient. Alors, dans la graphométrie, il y a bien sûr une dimension scientifique, parce que finalement, on ne travaille plus sur l'interprétation visuelle de l'écriture, mais sur l'interprétation métrique, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas, par les prises de mesure dans l'écriture. Et sur les moyennes, et sur les statistiques, et sur la courbe de Gauss, c'est un résultat scientifique, mathématique.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu le nom de Jacques Sals ?
Je ne l'ai pas entendu, je l'ai vu. Parce que travaillant chez Marie-Thérèse Prénat, dans le 16e, assez souvent, Jacques Sals débarquait chez Marie-Thérèse Prénat. Et c'est comme ça que j'ai connu et côtoyé Jacques Sals. Un monsieur un peu lent, un peu introverti, qui ne m'est pas forcément très à l'aise. Donc j'avais une impression un peu diffuse, mais bon, je n'ai pas eu d'emblée un élan de sympathie, il faut bien dire. On est dans les années 80, j'ai une trentaine d'années, et lui, il doit avoir une soixantaine d'années, je pense. Alors, on est quand même à une époque où la graphologie et ses développements sont vraiment très présents. On est dans le progrès, il n'y a pas encore vraiment d'informatique. Hein. Il faut dire qu'à ce moment-là, on a créé une société parce que la graphologie marche très très bien. Et on s'installe dans des bureaux dans le 8e arrondissement. Donc on a des grands bureaux. Tout ça devient très, très installé. Il faut qu'on ait une image de modernité. Et donc la graphologie, qui a toujours été très contestée, si on trouve une façon de valider la graphologie, par la graphométrie par exemple, on est preneur. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler sur la graphométrie et essayer de voir ses applications. Le test de Jacques Salles était intéressant. Il s'agissait, dans une écriture, de prendre un certain nombre de mesures, par exemple, toute la hauteur des lettres hautes, la longueur des jambages, la largeur du trait, l'écart entre les mots, l'écart entre les lettres. Donc on faisait 50 prises. À la fin, on sortait un profil qui donnait des tendances de la personnalité, ses capacités d'adaptation dans un poste, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec une autre graphologue rue des Montibœuf, dans un petit appartement qui ressemblait vraiment à rien. On savait, c'était pas un bureau, c'était pas un studio. On travaillait sur un bout de table dans une pièce qui faisait à moitié cuisine. Ah oui, ça n'avait rien à voir avec un centre de formation. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce certificat d'aptitude soit reconnu par l'académie, quelle qu'elle soit. Moi, je le sentais comme quelqu'un complètement dans sa bulle, incompris certainement, quelqu'un de qui a eu une grande curiosité, parce qu'il était aussi très curieux, alors de mathématiques, de philosophie, je me demande s'il ne peut pas de l'astrologie, je pense qu'il n'avait pas d'enfant, mais on ne savait pas grand-chose, à la fois un personnage assez mystérieux, très, très introverti, avec un problème de communication, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu inquiétant chez lui, pervers, un peu malsain, comme tous les génies finalement, parce que je pense que il était génial dans ce qui le passionnait, dans la mathématique, la philosophie, toutes ces choses-là, et qu'à côté de ça, il était profondément déséquilibré. C'était un espèce de gros monsieur un peu libidineux, on va dire, un peu mou, blanc, pas très dynamique et pas très attirant, d'une part. D'autre part, ses recherches, qui ont quand même été très particulières, très spécieuses, ne plaisaient pas à tout le monde. La Société française de graphologie le refusait comme un. C'était un. Il était diabolique, quoi. Enfin, c'était tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait était à repousser. À cette époque-là, il y avait souvent des colloques en graphologie. Il y en a eu un au Palais des Congrès, d'ailleurs. Et lui, il avait fait une intervention où il avait suivi une femme qui se faisait des interventions de chirurgie esthétique, filmées, avec de la musique, etc. Et donc, Jacques Salles avait fait la graphométrie de ce personnage très bizarre, et je pense que les deux personnages étaient faits pour se rencontrer, et donc il avait présenté ça au Palais des Congrès à un colloque de graphologie, et évidemment ça avait été le tollé, parce que toutes ces dames du 16e arrondissement étaient très très choquées par ce personnage on ne peut plus bizarre, et le sujet encore plus bizarre de son intervention. Donc c'est dire qu'il n'était pas spécialement apprécié.
C'est toujours un peu louche, les hommes dans les univers extrêmement féminins. C'est
ça. Alors, vous dites ça et ça m'éveille quelque chose. Il avait une part de féminité assez importante aussi, lui, hein, quand même. Et oui, c'était pas quelqu'un de très viril. C'était quelqu'un d'assez un peu ambigu. On est passé par l'informatique, après ça par Internet. On ne recevait plus de CV manuscrits. J'avais plus du tout de contact avec Jacques Salles, plus du tout. Mais par contre, on continuait avec mon groupe à travailler sur le test professionnel. Et donc, en fait, il était toujours dans nos esprits. Je ne sais plus comment j'ai appris la mort de Jacques Salles, je ne m'en souviens plus. Mais au nom de tout ce qu'on avait fait avec ce test, oui, c'est vrai que j'ai voulu être là pour ses obsèques, oui. Il y avait peut-être 7-8 personnes, pas plus, hein. Mais de sa famille, non, j'ai vu, euh, j'ai vu personne. Enfin, je ne connaissais pas sa famille, je ne connaissais rien de son environnement, en fait. Il y avait au moins 3 aides à domicile. C'est comme ça que j'ai appris que toutes les archives de Jacques Sals avaient été jetées à la benne. Et d'ailleurs, je suis allée à l'enterrement aussi parce que j'espérais récupérer les travaux de Jacques Sals. Et bien, c'était trop tard. C'était parti à la benne, donc on n'a rien pu récupérer. Je pense que c'est lui qui a écrit ça. On l'avait une fois analysé avec notre groupe, qu'on avait fait avec son test, et de quelqu'un de, effectivement, à la fois de très énigmatique, très extrémiste dans des tas de choses, avec une sensorialité excessive, avec tendance quand même à sexualiser beaucoup ses interprétations. On en a tiré effectivement. Ça n'a fait que conforter nos incertitudes, si on peut dire, sur Jacques Sals, de travailler sur son écriture.
Est-ce que vous êtes étonné si je vous dis que le plus vieux détenu de France a accusé pendant 40 ans Jacques Sals d'être l'auteur du meurtre pour lequel il était accusé?
Je me dis que tout est possible avec Jacques Sals. Et que c'est peut-être que cette partie sombre que j'évoquais était reliée à des histoires comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un Jacques Sals avant le décès de sa femme et un Jacques Sals après le décès de sa femme. J'ai jamais vu un objet d'art chez lui. Ce chez lui qui ressemblait à rien. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu clochardisés dans cet endroit où je prenais des cours rue des Montibœuf. Donc j'ai jamais vu un objet d'art, quelque chose de joli, quelque chose d'artistique. Non, jamais.
Est-ce que vous lui connaissiez une activité de psychologue?
Non. Non, je crois pas.
Novembre 2025. À Monsieur Jean-Jacques Venenburger. Bonjour. Nous ne nous connaissons pas. Je suis Jérôme Massella, documentariste radio. Je réalise un documentaire sur Jacques Sals, graphométricien et compagnon de Lucien Léger, dont il semble que vous avez été le directeur de thèse en 1999. Est-ce bien le cas ? Je suis étonné parce que Jacques Sals est né en 1922 et il aurait rédigé une thèse à l'âge de 77 ans. À bientôt, j'espère. Bien cordialement, Jérôme Massella.
Ah bonjour. Vous avez trouvé?
Oui, très facilement.
C'est pas trop compliqué.
Moi, j'ai dirigé, je viens de le revoir, 78 thèses dans ma vie. Mais c'est celle qui m'a le plus marqué, quand même. En principe, ça ne se fait pas. Un universitaire n'encadre pas des thèses de personnes qui n'ont plus d'avenir professionnel. C'est quelqu'un qui en imposait, qui a suffisamment de maturité, suffisamment de personnalité pour essayer de construire son propre univers d'interprétation du monde, que j'ai trouvé jovial, que j'ai trouvé très ouverte, que j'ai trouvé très convaincante, que j'ai trouvé claire, propre, solide. Et donc, il m'a impressionné. Je me souviens qu'il avait une écriture noire assez grande, très, très facile à lire, enfin, c'est un peu l'image que j'ai. Il était assez dogmatique, hein. il était sûr de lui. Et en même temps, il avait tout pour inspirer confiance, quoi.
Donc vous n'avez jamais eu l'impression d'être éventuellement, vous n'avez jamais eu des doutes quant au fait d'être en face d'un imposteur?
Ah, pas du tout. Si vous me demandez, dans mon âme et conscience, est-ce qu'il est l'auteur réel de cette thèse? Parce que c'est une question qu'on se pose toujours dans l'université. Mais avec Sals, non. Avec Sals, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est lui-même et qui a défendu jusqu'au bout cette ambition-là de vouloir être, parce que je pense que le titre lui importait, parce que je pense me souvenir qu'il avait rencontré beaucoup de résistance dans l'université. Et donc il a été extrêmement, moi je me souviens, il était extrêmement heureux quand il est sorti de mon bureau, parce qu'il a su que sa thèse enfin pourrait finir et pourrait être soutenue.
Et qu'est-ce que vous comprenez de son parcours ?
Son parcours, il revendiquait effectivement une activité professionnelle de psychologue, mais sans me donner des détails. Non, il avait une haute idée de lui-même. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et il n'est pas vers moi comme un étudiant envers un grand maître. D'une certaine manière, c'est presque lui qui me disait « j'ai quelque chose à vous proposer que moi j'ai trouvé ». Il avait un ego assez puissant quand même. C'est pour ça qu'il devait être très très vexé que d'autres universitaires ne l'apprécient pas. Parce qu'il pensait qu'il le méritait. Voilà. Et il voulait réhabiliter effectivement l'important de la contradiction comme structure logique de l'ensemble de nos activités cognitives, et il suivait effectivement le chemin de Lupescu, qui était ce philosophe roumain qui, pendant la guerre, était venu à Paris pour faire sa thèse sur justement le principe de contradiction, qui date, je pense, des années 44, fin de la guerre. Et j'ai l'impression que Jacques Sals est un petit peu comme Lupescu lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui a un itinéraire un peu en marge, qui se sent quand même destiné à aller jusqu'au bout de sa conception et à vouloir la faire reconnaître dans la société, d'où ce besoin effectivement de passer une thèse, et puis ensuite effectivement essayer de le dire à sa manière, qui n'était pas académique, c'est clair.
Est-ce que vous pouvez nous lire le résumé ?
Oui, voilà. Ça, c'est la partie qui fait partie de la quatrième de couverture de la thèse. L'objet de notre thèse est le suivant. Nous nous efforçons de réintégrer dans la philosophie. Vous voyez, réintégrer dans la philosophie. Donc, il sait bien qu'il vient d'ailleurs, c'est-à-dire de la psychologie, ce que nous pensons être le problème central et fondamental de la psychologie. Alors, deux points, celui de la psyché. Nous formulons une hypothèse sur la nature, il présente bien ça comme une thèse, hein, une thèse et une hypothèse, sur la nature et l'origine de la psyché. La nature et l'origine de la psyché, c'est très ambitieux, hein, c'est vraiment un grand. Hein. Alors, pour cela, nous utilisons la logique des antagonismes, alias raison contradictoire de Stéphane Lupescu. Et c'est évidemment le nom de Lupescu qui a déclenché notre entente, parce qu'il y avait très très peu de travaux sur Lupescu. Moi-même, j'avais travaillé sur Lupescu. Moi-même, j'avais écrit un livre qui s'appelle « La raison contradictoire ». C'était ma propre thèse. Et j'ai connu Stéphane Lupescu. Alors, avoir dans mon bureau quelqu'un qui est déjà mûr et qui a déjà une expérience et qui a déjà des compétences psychologiques, etc., à me dire qu'il a besoin de Lupescu, vous vous rendez compte, c'était un cadeau du ciel pour moi. Alors, il rajoute évidemment, mais ça c'est tout à fait tiré de Lupescu, ainsi que la physique quantique, en insistant sur les travaux de Roger Penrose. Alors, Roger Penrose, c'est un mathématicien très célèbre, qui est aussi un personnage un peu sulfureux. Je suis en train d'improviser, mais quand je lis Sals, Lupescu, Penrose, je trouve que c'est trois marginaux. Donc ça, c'est le thème, dit-il, de notre volume 1, intitulé « La psyché, des quantas au cosmos ». Alors ça, déjà, je dois dire qu'il y a des collègues qui, voyant ce sous-titre-là, diraient « c'est pas possible, c'est pas pensable, c'est pas une thèse, enfin, c'est farfelu ». Donc vous voyez, il y a des indices quand même de son audace. Hein. En deuxième lieu, donc ils annoncent le deuxième tome, nous nous interrogeons sur la production majeure de la psyché, qu'est le « moi », source de la rationalité. Alors, donc là, on retrouve le psychologue, après avoir jeté les bases épistémologiques générales de son projet. Donc, le moi, source de la rationalité et de la souveraineté, bon, et de la liberté de l'individu. Donc, c'est vraiment, là encore, un grand projet pour fonder ce qu'est la psychologie. Donc vous voyez, c'est pas rien. Il essaie de refonder la logique et de refonder la psychologie. C'est pas mal, hein, à cet âge-là. Et nous privilégions ici les travaux de Freud. Alors moi, évidemment, j'étais heureux aussi parce que j'avais commis moi-même un livre sur Freud. Donc vous voyez comment la connivence